Nous sommes dans l'histoire de Samson et je voudrais vous inviter ce soir à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Je vous prends par surprise, puisqu'il est fait référence à Samson dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e, versets 32 à 34. Mais je vous rassure, nous retournerons dans le livre des Juges tout à l'heure. Donc, Hébreux 11, verset 32, et là, après s'être longtemps attardé sur ces héros de la foi que sont les patriarches, que sont Moïse, bien, nous pouvons développer davantage ces choses. L'apôtre écrit donc, « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, et donc de Samson. » Mais aussi de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Si je lis ce texte, c'est pour affirmer encore une fois que Samson trouve sa place parmi les héros de la foi. Et peut-être que ce soir, vous vous posez la question, mais Samson a-t-il vraiment sa place parmi ces hommes qui sont cités ici ? Le mois dernier, lorsque nous avons commencé cette méditation sur Samson, l'une des premières choses que j'ai voulu dire, c'est que Samson, ce n'est pas simplement une histoire pour petits garçons de l'école du dimanche. Samson, ce n'est pas simplement l'histoire d'un monsieur muscle dirigé par ses pulsions. Samson est une figure messianique. Et avant toute autre chose, Samson est un homme consacré totalement à Dieu. Mais il est évident que nous ne prenons guère attention à Samson, parce que nous l'avons classé parmi des gens qui n'auraient pas grand-chose à nous apprendre, parce que nous estimons que sa vie est un échec. Et nous voyons en Samson un homme avec un potentiel énorme, mais un homme avec une volonté faible, et un homme dominé par ses sens, et nous disons, vous n'avez qu'à regarder ses œuvres, elles témoignent de ce qu'était Samson au fond. Ainsi, ça fait déjà bien longtemps dans l'Église que la cause de Samson est entendue. Samson a caché son appel dans les bras des étrangères et il a fini misérablement. Qu'avons-nous à apprendre de plus concernant Samson ? De point au point presque de dire que nous perdrions notre temps à lire son histoire, nous la connaissons, passons dessus. Mais je voudrais vous montrer qu'en raisonnant de la sorte, nous prenons le risque de nous montrer guère plus perspicaces que les parents de Samson, qui ont été incapables de reconnaître la main de Dieu dans les actions de leur fils. Ce soir, je ne veux pas plaider la cause de Samson, mais j'affirme que Samson vaut beaucoup plus que le jugement que nous lui avons appliqué depuis tant de générations. Alors, il ne s'agit pas de justifier sa liaison avec Dalila, nous n'en sommes de toute façon pas à Juges 16. Il ne s'agit pas de justifier le fait qu'il lui ait révélé son secret. Mais je voudrais vous montrer, d'ailleurs c'est un bon exercice, qu'il est bon de prendre le temps de lire la Bible comme si c'était la première fois, en occultant tout ce qu'on croit savoir, mais qui souvent ne correspond pas du tout au texte biblique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer encore une fois que Samson est un héros de la foi. Et nous allons nous concentrer, puisque nous y arrivons, sur le chapitre 14, sur la question du mariage de Samson. Et à mon avis, ce mariage de Samson avec la Philistine est à la base de toute l'incompréhension qui s'est dressée entre nous et lui. Et nous allons donc lire, à partir de la fin du chapitre 13, versets 24 et 25, et puis les premiers chapitres du verset 14. Juges, chapitre 13, versets 24 et 25. La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané Dan, entre Tsoréa et Ektaol. Samson descendit à Timna, donc une ville chez les Philistins, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « Mais n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Et Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit, parla à la femme, et lui plus. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il continue un peu plus loin, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors bien sûr, Samson n'est pas né de l'esprit tel que nous le comprenons, puisque l'esprit n'était pas encore donné. Cependant, Samson est une image prophétique d'un homme consacré à Dieu dès sa naissance et en permanence. Et un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la dernière fois, je vous disais que Samson est comme une image de l'homme nouveau. Car lorsque nous naissons de nouveau en Jésus par le Saint-Esprit, nous devenons consacrés à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous lui sommes consacrés en permanence, avec la promesse d'un revêtement de puissance par le Saint-Esprit. Alors, il nous faut revenir un peu sur les enseignements de Juges chapitre 13 que nous avons évoqués la dernière fois, et ça nous permettra de nous en rappeler, ou pour les autres, de nous rejoindre sur ce que nous avions dit. Tout d'abord, nous avons vu la naissance unique, extraordinaire de Samson, puisque c'est quand même un ange qui nous rappelle Gabriel venant vers Marie, qui s'est approché de cette femme dont nous ne connaissons pas le nom, épouse d'un certain Manoac, pour leur dire que bientôt naîtrait un enfant. Ce couple était stérile. Et cet enfant viendrait. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce serait un enfant qui commencerait à être délivré Israël. Mais Dieu mettait ses conditions. Cet enfant serait marqué par une consécration permanente à l'Éternel. Il serait un Naziréen permanent. Jamais il ne devra manger de ce qui vient de la vigne, et jamais le rasoir ne passera sur sa tête, vous le savez bien. Juste une chose, très intéressant. J'ai remarqué, j'ai pris le temps de relire le texte une fois, deux fois, de vérifier sur mes concordances. Mais savez-vous que dans le chapitre 13, rien ne nous est dit concernant sa force ? Rien ne nous est dit dans Juges 13 au sujet de la force de Samson. L'ange de l'Éternel n'a rien dit aux parents de Samson concernant la force de Samson. Et nous découvrons, bien sûr nous savons tellement bien, mais en fait nous découvrons que Samson est doté d'une force tout à fait particulière lorsque il est dit que dans les vignes de Timna, il va attraper ce jeune lion qui bondit sur lui, le déchirer comme un chevreau. Mais jusque-là, rien ne nous avait été dit sur sa force. Mais encore plus, rien ne nous est dit quant au lien entre sa force et sa chevelure. Et si vous relisez le texte de Samson, nous n'en savons rien presque jusqu'à la fin. Mais, entre guillemets, et vous comprenez ce que je vais dire, nous pouvons dire à Madame Delila merci, parce que c'est elle qui pose la question qu'on avait envie de poser à Samson, mais d'où vient ta force ? Et Samson, malheureusement, va lui révéler. Mais en lui révélant à elle l'origine de sa force, il nous l'apprend à nous aussi, parce que jusque-là, jusque presque donc à la fin de la vie du ministère de Samson, nous n'étions pas au courant qu'il y avait un lien entre ses cheveux et sa force. Tout ça pour vous dire que Il nous arrive trop souvent de lire le texte avec notre culture. Donc on ne lit plus la Bible. On lit un espèce de livre déjà codifié, religieux, où on connaît la fin et donc on n'entend plus ce que la Bible a à nous dire. La seule chose qui est certaine à la fin du chapitre 13, la seule chose qui est certaine, c'est que Samson est destiné par Dieu à commencer de délivrer Israël de la main des Philistins et surtout que Samson serait un Naziréen permanent. Nous, nous le voyons comme une espèce de monsieur Schwarzenegger ou Stallone. Juge 13 nous le présente comme un Jean-Baptiste. Elle nous présente Samson comme un homme très spirituel. Et regardez les choses qui sont dites à la fin de Juge 13. Nous avons là un jeune garçon qui grandit, qui... D'ailleurs, ça nous rappelle ce passage un peu Jean-Baptiste et Jésus. Vous savez, ils grandissaient en stature. Eh bien, on a là, la femme enfanta un fils, nous allons de Samson, l'enfant grandit, l'Éternel le bénit. Là encore, on a une annonce de Jean-Baptiste et de Jésus. Donc, il y a un lien qui se fait. Cet homme est béni de l'Éternel. Il y a une grâce de Dieu sur sa vie. Il est appelé à exercer une mission messianique. Et en plus, bonne chose, nous découvrons que l'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter. C'est un début très prometteur, qu'est-ce que vous en pensez? Si nous lisons le texte comme nous l'avons là, nous avons donc quelqu'un qui nous intéresse. Voilà un personnage qui nous apporte quelque chose de solide, un bon exemple pour nos vies. Et puis, au chapitre 14, voilà que nous sommes à l'entrée de son ministère. Et puis, il faut bien le dire, ce chapitre 14 résonne comme une mauvaise surprise, voire comme une espèce de déception qui en appellera d'autres. On retrouve notre jeune Naziréen, consacré à l'Éternel, s'entichant d'une femme philistine, s'égarant au milieu des vignes et tuant de ses propres mains un jeune lion. Bref, nous avons là un Naziréen qui ne correspond absolument pas au tableau que la loi en donne. Quel est donc ce personnage de Samson? Seulement, si nous demeurons attentifs au texte, nous ne pouvons pas manquer d'observer que ce texte, d'ailleurs tout le chapitre 14, est balisé par des mentions tout à fait spéciales. Avant le 14, au début du 14, au milieu du 14, à la fin du 14, il y a 4 mentions concernant l'Esprit de l'Éternel. 4 mentions qui associent les actions de Samson au Saint-Esprit. La première d'entre elles, nous l'avons donc Juge 13, 25, l'Esprit de l'Éternel commença à agiter Samson à Makhané-Dan, entre Tsoréa et Ktaol. Makhané-Dan, qui veut dire le camp de Dan. C'est un lieu très particulier où un certain nombre d'hommes, je crois qu'ils sont 600 hommes de la tribu de Dan, vont se retrouver et vont décider de partir au nord. Ils vont quitter la part que Josué leur avait donnée de la part du Seigneur pour aller au nord d'Israël, pour conquérir une nouvelle part. Pourquoi font-ils cela? Parce que à l'endroit que Dieu leur avait donné, ils n'avaient pas réussi à s'imposer à cause des Amoréens et ensuite des Philistins. Donc à cet endroit-là, le camp de Dan, la tribu de Dan avait été marquée par un échec, une fuite. Au lieu de conquérir ce que Dieu leur avait donné, à cet endroit-là, ils avaient fui. Ils étaient allés ailleurs. Et je trouve intéressant donc que dans ce même lieu de renoncement pour la tribu de Dan, voilà que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et Samson, à cet endroit, ne va pas fuir. Il ne va pas partir au loin. Au contraire, il va relever le défi. Et il nous est dit qu'il va descendre chez les Philistins, il va descendre à Timna. L'endroit d'une défaite devient l'endroit annonciateur de quelque chose de nouveau pour cette tribu. Maintenant, Samson est un homme seul. Et malgré sa force que lui connaît, mais que nous ne connaissons pas encore dans le texte, il est seul. Et donc Samson ne va pas foncer tête baissée chez les Philistins pour commencer à les secouer les uns après les autres et les écraser comme cela. Parce que le fait qu'il soit seul ne lui permettra pas de remporter suffisamment une victoire. Mais de toute façon, nous allons voir, ce n'est pas là son ministère. Dieu n'a pas donné à Samson le mandat d'écraser les Philistins. Il a surtout donné à Samson le mandat de réveiller les Israélites. Continuons, Juges 14:4. Et alors ça va nous permettre maintenant de parler plus en avant de ce mariage de Samson avec la Philistine. Juges 14, verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Alors, là, il y a vraiment un problème. C'est sûr que quand on s'arrête sur ce verset, on se pose la question. Cette histoire, est-ce qu'elle vient de Samson ou elle vient du Seigneur ? On a l'impression que Samson descend à Timna et, poum, coup de foudre pour une jeune fille parmi les Philistins. Puis le texte lui semble nous dire, mais non. Samson descend à Timna, poussé, agité par l'Esprit, et poussé par l'Esprit de Dieu, il va prendre cette jeune femme. Pourquoi ? Parce qu'il a un plan. Il cherche une occasion de dispute avec les Philistins. Alors, comment concilier tout cela ? Certains ont vu là ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'approuve pas Samson, mais Dieu utilise malgré tout ce que Samson fait pour faire triompher sa volonté. Et souvent, vous avez peut-être entendu ça, certains parlent de la volonté absolue de Dieu et de la volonté permissive du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut pour toi, et puis il y a ce que nous voulons, et Dieu permet par moments, même si ce n'est pas sa volonté, il nous permet d'aller dans notre vouloir et nous fait grâce ou manifeste sa grâce malgré tout, et c'est la volonté permissive du Seigneur. Et c'est ce que certains verraient dans cette situation. Autrement dit, Dieu accepte, mais il n'approuve pas. Seulement, convenez avec moi qu'il n'y a aucune trace ici d'un sentiment de désapprobation de la part de Dieu. À aucun moment dans le texte, il est dit que Dieu a désapprouvé le mariage de Samson avec la Philistine. Au contraire, le texte semble nous justifier l'action de Samson. Pourquoi va-t-il se marier avec la Philistine ? Parce qu'il cherche une occasion de dispute avec les Philistins. Et c'est là que l'action de Samson nous dépasse. Nous ne comprenons pas bien. Elle nous dépasse, pourquoi ? Parce que nous interprétons mal, pardon. Peut-être me direz-vous, frère, comment concilier ce qui est charnel, puisqu'il est écrit « la femme plut à ses yeux », et ce qui est spirituel ? Le Seigneur l'a dit, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Seulement, c'est vrai qu'il faut rentrer un peu plus dans le texte, ou alors avoir plusieurs Bibles, ou essayer de voir un peu ce que l'hébreu nous enseigne. Mais lorsqu'il est dit par deux fois que la femme plut à Samson, verset 4, Samson répond à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Verset 7, il descendit par là la femme et elle lui plut. Le verbe plaire est très particulier ici. C'est le verbe yachar en hébreu, qui dans d'autres passages de l'Ancien Testament est traduit soit par aplanir, soit par conduire, soit par juste, soit par droit, soit par convenable. D'ailleurs, convenable, c'est la traduction retenue par Darby ici. La femme parut convenable à Samson. Donc ici le verbe plaire ne parle pas d'attrait physique. Le verbe plaire parle de qualité morale. Elle est droite, elle est juste, elle est convenable. Voilà ce que Samson est en train de dire à ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Samson descend chez les Philistins pour chercher la femme la plus droite qu'il puisse trouver. Non pas la plus belle, mais la plus droite. Rappelez-vous, il cherche une occasion de dispute. Il cherche la femme la plus droite, pourquoi ? Parce qu'il cherche à prouver quelque chose. Et on va y revenir. Oui, vous me direz certainement, son père et sa mère le relèvent d'ailleurs, la loi, Exode 34, versets 15 et 16, interdisait à un Hébreu, un Israélite, d'épouser une étrangère. Alors c'est vrai que les Philistins ne sont pas spécialement mentionnés dans ce passage, mais il était interdit d'épouser des incirconcis, les Philistins font partie des incirconcis. Je m'engage dans quelque chose qui est très délicat, mais je le dis comme ça, Samson n'est pas un homme de loi, mais c'est un homme de foi. Et c'est pour ça qu'il fait partie de ceux qui sont cités dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est un homme de foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Samson agit ici comme David lorsqu'il va manger les pains des sacrificateurs. Son action est portée par la foi et l'esprit et elle dépasse le cadre de la loi. Je suis conscient que le sujet est délicat. Où se situe la frontière entre une action mystérieuse conduite par l'esprit et une action charnelle qui se cache derrière un voile spirituel? Jésus l'a dit, l'esprit, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, il en est ainsi de tout homme spirituel. Ok. Donc, l'homme spirituel, on ne comprend pas forcément ses actions. Et maintenant, il ne s'agit pas de tout justifier sous un voile de spiritualité. Donc, il y a là une démarcation qui nécessite quand même un certain discernement, un certain raisonnement. La Bible, en tout cas, le met en évidence pour Samson. Parce qu'il est dit donc que la femme lui plut, Yachar, elle était convenable. Par contre, juge 16, il va tomber amoureux de Delilah. Il n'est pas tombé amoureux de la femme philistine, mais il tombe amoureux de Delilah. Donc là, ce sont ses sentiments qui vont l'emporter dans le cas de Delilah, tandis que dans le cadre de juge 14, il est, à mon sens, conduit là par le Saint-Esprit. Je vous rappelle malgré tout qu'il n'est pas question de mélanger ce qui vient de l'esprit, ce qui n'est qu'un prétexte. Paul lutte contre cette doctrine qu'on appelle l'antinomisme dans Romains chapitre 6. Il y a ceux qui disent, du moment que je crois que mon cœur est au Seigneur, avec mon corps je fais ce que je veux. Paul lutte contre cette doctrine, nous luttons contre cette doctrine. Et ce n'était pas la doctrine de Samson. Samson n'était pas quelqu'un qui se contentait de croire superficiellement, c'était un homme entièrement conduit par le Saint-Esprit. Mais nous avons du mal à le comprendre dans un premier temps. Retenons ceci, c'est important. Le but de Samson n'est pas d'épouser en soi la Philistine. Il n'épouse pas cette Philistine parce qu'il veut comme posséder cette Philistine. Il veut épouser cette Philistine parce qu'il cherche une occasion de dispute avec les Philistins. Voyez, les choses sont un peu subtiles, mais malgré tout, elles sont là et elles sont importantes. Autrement dit, son mariage n'est pas une finalité charnelle, mais un moyen spirituel, un moyen pour réveiller Israël. Et je le redis, dans ce passage, Samson est un homme conduit par l'Esprit du Seigneur. Ses parents ne l'ont pas compris. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à le comprendre. On mettra plutôt en avant les pulsions de Samson, la volonté faible de Samson. C'est tellement facile. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le stéréotype Samson de l'homme superficiel. Grand, costaud, rien dans le cœur, rien dans la tête. Sauf. Où est-ce que la Bible nous dit qu'il est grand et costaud ? est-ce que sa force est liée à ses muscles ou à l'Esprit de Dieu? Parce que quand il est en train de pousser dans Juges 16 la roue, est-ce que ses muscles ont fondu? Ses cheveux. Donc, il, même si, je ne sais pas, il avait mesuré 2 mètres et, je ne sais pas, 140 kilos, plein de muscles, ce jour-là, il était aussi faible qu'un petit chien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait mesuré 1 mètre 70, pesé 60 kilos, avec les cheveux longs, il faisait le poids. Non, mais je vous amène pour arriver, essayer un peu de, vous comprenez, d'enlever cette espèce de représentation qu'on a très stéréotypée. La Bible ne nous dit absolument pas ça. Nous, on trouve commode de dire ça. C'est ça qui est important. C'est qu'on trouve commode de dire ça parce qu'alors, ça rentre dans nos schémas de pensée. Et ça y est, on l'a mis dans une catégorie. Sauf que le problème, c'est que la Bible ne dit absolument pas ça. Et alors là, elle nous prend de court. Et quelque part, elle nous déstabilise. Mais souvent, la Bible cherche à nous déstabiliser pour nous amener à raisonner d'une autre manière. Et puis ça continue. Voilà qu'on retrouve notre Naziréen au milieu des vignes. Qu'est-ce qu'un Naziréen fait au milieu des vignes? Quand même. Et première action qu'il fait où on découvre sa force, le voilà qu'avec ses mains, il va déchirer un animal. Alors, la question, c'est vrai, débattue. Parce que le Naziréen ne devait toucher de rien de mort. Bon, maintenant, le nombre 6 ne parle que d'hommes, ne parle pas d'animaux. Donc éventuellement, ça reste en suspens. Mais enfin, quelle drôle de façon de commencer son ministère pour ce Naziréen que de se retrouver au milieu des vignes et de tuer cet animal. Et pourtant, là, il est dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que cette chose va s'accomplir. Et d'ailleurs, on sait qu'elle trouve son intérêt après, puisque la mort du lion va lui servir pour l'énigme. Vous vous rappelez, ce qui sort du fort va lui rappeler pour l'énigme qu'il va poser aux Philistins. Et puis, dernière mention, je vais dans Juges 14, 19, nous ne l'avons pas lu, mais ça y est ici aussi, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Que va-t-il faire à Ascalon? C'est là où il va tuer les 30 Philistins pour prendre les manteaux afin de payer la dette qu'il a auprès des amis de Nos qui avaient découvert la devinette par sa femme. Mais là encore, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Écoutez, je ne demande qu'à montrez-moi si je me trompe, mais je ne connais pas un autre passage dans l'Ancien Testament, à part les textes messianiques, où il soit autant question d'un homme saisi par le Saint-Esprit. Je ne connais pas. J'y réfléchis. Il faudrait chercher certainement encore plus. Mais là, comme ça, en un chapitre, 4 fois la mention saisie par l'Esprit de l'Éternel, quelle fréquence! Ces références à l'Esprit du Seigneur opèrent comme des repères, placés pour nous permettre de comprendre certaines actions de ce juge de Samson qui pourraient être mal comprises sinon. Parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas cette mention de l'Esprit de l'Éternel qui le saisit, on se dirait, mais vraiment, Samson, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas épouser cette Philistine? Mais voilà qu'on nous dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui le fait faire. Samson qui tue le lion. Mais qu'est-ce que tu fais là, Samson? Qu'est-ce que tu fais au milieu divin? Qu'est-ce que tu fais à tuer ce lion? Ça rime à quoi? Mais puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est là, alors nous comprenons qu'il descend à Timna pour y trouver une femme philistine parce que, je vais le dire comme ça, c'est le Seigneur qui lui demande. Il l'agite, il le pousse à faire ça. Avec Samson, nous sommes vraiment avec un personnage très énigmatique. D'ailleurs, un commentateur a dit ceci au sujet de Samson, que son ministère est plein d'énigmes. Tout le texte de Samson est marqué par des énigmes. Regardez, l'ange de l'Éternel refuse de révéler son identité à la femme de Manoah. Il ne veut pas lui dire comment il s'appelle. Lorsque Manoah insiste pour connaître son nom, l'ange lui répond, c'est un mystère. Au chapitre 14, la cérémonie de mariage tourne autour d'une énigme, un mystère proposé par Samson. Au chapitre 16, il y a le petit jeu entre Delila et Samson, consistant à percer le mystère de la force de Samson. Quant à Samson, toutes ses œuvres sont très énigmatiques. Pourquoi dévaster le pays en attachant 300 renards queue par queue ? Pourquoi traverser tout le territoire des Philistins pour aller retrouver une prostituée ? Pourquoi arracher les portes de la ville de Gaza et aller les planter au sommet de la montagne ? Vraiment, c'est un homme mystérieux, c'est tout ce qu'il fait est énigmatique. Les énigmes font partie intégrante du ministère de Samson. C'est même une caractéristique principale de son ministère. Pourquoi ? Parce qu'il veut amener son peuple à réfléchir. Et là, je dis, on s'est complètement trompé par rapport à la finalité du ministère de Samson. Nous, on ne le voit que du côté de la force. Les exploits militaires de Samson. C'est vrai qu'il a fait des choses, il en a battu. Mais comme je vous le disais la dernière fois, les exploits militaires de Samson, il en a tué 30 à Ascalon, il en a tué 1000 à Ramath-Lehi, et il en a tué 3000 en mourant dans le temple de Dagon. Est-ce que c'est cela qui allait ébranler la puissance militaire des Philistins ? Samson est resté un homme seul. Il n'a jamais été un général de guerre. Au contraire, les Judéens l'ont vendu. Ils l'ont abandonné aux Philistins. Le ministère de Samson n'est pas dominé par la puissance, mais par l'intelligence. Samson a agi pour amener le peuple à réfléchir. Comme je vous le disais la dernière fois, pourquoi on accepte qu'Osée épouse Gomère, qui est une prostituée ? Il est clair que c'est le Seigneur qui lui demande de le faire, afin d'instruire le peuple, et qu'avec Samson, on a un problème. Moi, je crois véritablement que Dieu a demandé à Samson d'épouser la meilleure, non pas la plus belle, la meilleure des Philistines. Pourquoi ? Pour montrer à Israël l'impossibilité d'une alliance avec les Philistins. Rappelez-vous ce que je vous disais, les Philistins n'embêtaient pas Israël. Les Madianites au temps de Gédéon, chaque année, ils venaient, et quand la moisson était là, ils passaient, ils emmenaient tout, ils faisaient une razzia. Mais les Philistins se contentaient de vivre, d'exercer leur autorité, mais ils les laissaient vivre. Au point que ça faisait 40 ans qu'Israël était dans cette situation et que personne ne pensait à se repentir. Dieu veut les réveiller. Il veut les amener à prendre conscience. Mais regardez, vous êtes prêts à avoir une alliance avec les Philistins, ça ne vous mènera à rien. Samson a pris la meilleure des Philistines pour montrer que c'était peine perdue. Et donc le ministère de Samson, ce n'est pas un ministère de force, ce n'est pas un ministère de puissance, c'est un ministère de sagesse, c'est un ministère d'intelligence. Il y a dans les énigmes de Samson, et dans la vie énigmatique de Samson, mais dans ses enseignements aussi, quelque chose qui me rappelle Jésus, qui enseignait en parabole. La vie de Samson, ce sont des paraboles, mises en scène par lui-même. Jésus enseignait en parabole et personne n'y comprenait rien. Et le Seigneur le faisait exprès. Il voulait les amener à réfléchir, que celui qui a des oreilles entende. Autrement dit, réfléchissez, débrouillez-vous avec ce que je vous ai dit. Ok. Et pour ceux qui faisaient partie du royaume, alors le Seigneur leur expliquait les choses, et puis pour les autres, c'était comme cela. Et donc le Seigneur a accepté tout à fait d'avoir un enseignement très mystérieux, très énigmatique, et Samson a fait de même. Et donc, ce que je voulais surtout vous dire maintenant, prenez le temps de relire le livre de l'histoire de Samson. En mettant de côté tout cet aspect force et en essayant de réfléchir à ce qu'il fait, de comprendre pourquoi il fait ces choses. Et vous verrez combien ça nous instruit. Samson fut un homme de l'esprit. Comme Jésus le disait, ainsi en est-il de tout homme né de l'esprit. Les hommes de l'esprit, les hommes spirituels, peuvent être amenés à faire des choses que l'homme religieux ne comprend pas. Et l'homme spirituel, animé de l'esprit, doit être une énigme et un mystère pour ceux qui l'entourent. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont conduits dans des choses que les autres ne comprennent pas. Mais ce qu'ils font doit amener les autres à réfléchir. Tu en entends le bruit, tu sais d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Ainsi en est-il de tout homme né de l'esprit. Et Samson, c'est exactement cela. C'est pour ça que je vous disais que Samson, c'est une image de l'homme nouveau. Consacré à Dieu dès son enfance, béni de l'Éternel, revêtu de la puissance du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans des choses et des actions que nous ne comprenons pas forcément si on le lit simplement d'après la loi. Maintenant, nous n'en sommes qu'à Juges 14. Et ce que je veux dire aussi, c'est ne lisez pas l'histoire de Samson d'après Juges 16. Parce que c'est ce qui arrive aussi. On lit Juges 13, 14, 15 comme, parce qu'on en connaissant déjà Juges 16. Et donc on lit les premiers chapitres à la lumière de ce qui vient après. Alors qu'il faut entendre les textes tels qu'ils sont. Ça n'excuse pas Samson dans ce qu'il va faire ensuite. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est que les premières actions de Samson étaient marquées par le sceau du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voilà, vous aurez le temps de travailler sur, réfléchir et partager ensemble sur ces choses dans les groupes de maison, autour de ces actions que l'Esprit peut nous amener à entreprendre. Et puis des fois, la confrontation donc entre la loi et la foi. Seigneur notre Dieu, notre Père, aide-nous à comprendre, à exercer du discernement. Et puis aussi, Seigneur, aide-nous à lire ta parole telle qu'elle se présente à nous. Seigneur, aide-nous à nous vider de toute notre culture chrétienne, de toutes les représentations qu'on nous transmet, mais qui au fond n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Seigneur, apprends-nous à lire ta parole et à la lire avec le Saint-Esprit. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que Samson a des choses à nous enseigner. Puissions-nous, nous aussi, être des hommes, des femmes nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit, agités, saisis. Et cela peut-être parfois peut nous amener dans des situations complexes, dans des situations d'incompréhension. Seigneur, ce qui compte, c'est d'être conduit par toi. Mais c'est vrai, il nous appartient, mon Dieu, de bien faire la différence entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Donne-nous d'être des hommes, des femmes spirituelles. De toute façon, Seigneur, nous nous intéressons fort peu à être jugés par les hommes. Celui qui nous juge, c'est toi. Mais Seigneur, si nous sommes conduits par l'Esprit, c'est ce qui compte. Merci, mon Père, pour cela. Dans le nom de Jésus.